With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn. Une nouvelle fois, Sort le Popcorn reprend son format habituel pour un long épisode consacré à la série Netflix The Eddie, créée par Damien Chazelle et sortie il y a quelques jours sur la plateforme. Aujourd'hui, je vais donc appeler Kalindi pour qu'on puisse débattre de cette série d'abord sans, puis avec spoiler. Donc même si tu ne l'as pas vue, tu peux rester au moins pour le début, voir si ça te fait envie, cher auditeur, chère auditrice. Et si oui, alors tu peux foncer la regarder et tu reviens écouter la deuxième partie. Allez, j'appelle Kalindi. Allô ?
Allô ?
Ah, bonjour Kalindi !
Extraordinaire ! C'est fou, cette technologie ne s'arrête jamais.
Ah mais c'est
ça. Ça va bien, Annick Martineau ?
Ça va, et toi Kalindi, bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn ?
Ah bah je suis ravie, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un Sors le Popcorn, je veux dire avec des gens pour de vrai. C'est vrai qu'on a eu le nouveau format où on faisait chacun nos notes vocales de notre côté. Ouais. Mais je suis contente d'avoir une discussion avec un être humain.
Ben oui, en fait ça fait plaisir, c'est sous-côté un peu.
Ah ben oui, mais je pense que tu vois ce confinement va faire en sorte qu'on va plus enregistrer nos conversations téléphoniques, tu vois, on fera des courts-métrages à base de morceaux de Skype, je pense qu'il y a des choses à faire. Hein.
Ah mais c'est clair, il y a des trucs à creuser, mais en attendant du coup qu'on réalise notre propre série sur Skype, on va parler
de... voilà, elle me coupe dans mon élan. Et si moi j'ai pas envie de parler de ta série, Annie,
Au revoir Kalindi. Du coup, je vais quand même vous rappeler ce que c'est que The Eddie. The Eddie, c'est quoi ? The Eddie, c'est un bar de jazz parisien dirigé par Farid et Elliot. Et Elliot, c'est un peu le personnage principal, même si en réalité, il y a 8 épisodes dans la série et chacun est consacré à un personnage différent. Mais tout se gravite quand même autour d'Eliott et autour du bar, en fait, qui connaît de gros problèmes financiers. D'ailleurs, on découvre assez vite que Farid est impliqué dans des affaires un peu louches, un peu douteuses. Et Eliott essaie de les régler en même temps que ses problèmes avec sa fille, une ado rebelle qui s'appelle Julie. Que son bise-bise avec Maya, la chanteuse du groupe de The Eddie. Et que plein d'autres problèmes, en règle générale, puisque cette série parle de gens dans la merde, des gens tristes, qui ont tout un tas de problèmes, mais qui se retrouvent tous en un point au bar The Eddie. The Eddie, c'est aussi une série musicale qui est assez novatrice, on en reparlera. Et c'est vrai que si on enlève la musique à l'histoire, ça serait la dépression profonde. C'est pas une série ultra joyeuse, quoi.
Ah bah c'est la dépression profonde, même avec la musique, hein. Enfin, je trouve.
Ça sublime la dépression profonde grâce à la musique.
Je suis pas sûre que ça la sublime non plus.
Ça souligne.
Bon, ça souligne.
Et du coup, qu'est-ce que t'attendais de cette série, Kalindi, toi ?
Bah, en fait, c'est marrant parce que à la base, le synopsis m'avait pas fait franchement bander. Et du coup, en fait, j'avais basé mes attentes que sur le fait que ce soit Damien Chazelle, puis Ouda Benyamina et Leïla Merakchi qui pilotent les épisodes. Je m'étais basée que sur mon amour pour ce que ces personnes ont l'habitude de créer. Et du coup, j'avais quand même pas mal envie de découvrir cette série. J'avoue que j'avais du coup, en fait, c'est assez ambivalent parce que à la fois j'avais ultra hâte et à la fois de ce que j'avais vu des teasers, je sentais que j'allais être déçue et j'avais raison comme souvent.
Ah ouais, t'as
mais
été
en fait,
déçue.
Si tu veux, ouais, moi j'ai été assez déçue, bien que j'ai trouvé la série charmante en bien des aspects, mais j'ai été clairement déçue et ce dès le premier épisode, je pense. Et en fait, en plus, ce que j'attendais, moi, c'était, tu vois, quand j'ai vu Whiplash, La La Land et même First Man, j'ai été happée tout entière par les films, tout entière par le récit. Des films que j'ai vus plusieurs fois au cinéma, j'ai dû voir deux ou trois fois Whiplash au cinéma. J'ai vu 7 fois La La Land, du mercredi au mercredi, tous les jours, donc pendant une semaine. La première semaine, je l'ai vu deux ou trois fois. Et enfin, voilà, c'était vraiment, j'ai été happée profondément et tout à fait par ces films. Et en fait, c'est ça que j'attendais de The Eddie, c'était de me choper derrière mon écran et de me rendre complètement accro, de pas me lâcher pendant 8 épisodes. En fait, je pensais que ça allait peut-être être la série qui allait être ma préférée de l'année, qui allait me renverser le cœur. Enfin, tu vois, j'avais...
Ouais.
Ben, j'avais envie d'avoir un truc qui m'est pas arrivé depuis fucking longtemps devant une série, tu vois.
Ouais,
arrivé devant Hollywood, dont vous avez parlé avec Mimi la dernière fois. Toi, que t'avais quand même moins apprécié, mais moi, Hollywood, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que je suis rentrée dedans immédiatement, j'ai kiffé, et en sortant, je me suis dit, ah bah voilà une série que j'attendais depuis un bout de temps, tu vois. Et ça ne m'arrive que trop peu. Et du coup, j'avais placé cet espoir-là en The Eddie. Et donc, samedi matin, quand j'ai lancé le premier épisode, j'ai été désarmée, ben, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais par le format, ouais. par la caméra à l'épaule, il y a plein de choses qui m'ont un petit peu déroutée. Au départ, je me suis dit, ouais, génial, on vient m'apporter quelque chose de nouveau, on m'apporter quelque chose de frais. Et à la fois, c'est nouveau et à la fois, ça se veut nostalgique d'un vieux cinéma qui aujourd'hui a mal vieilli, je trouve. Donc, je me suis dit, bon, laissons un peu le temps à l'intrigue de développer son... Et peut-être que je vais finir par pénétrer le truc, et ça n'est jamais venu.
Ah ouais, ok.
Ça n'est jamais venu.
Parce que tu vois, moi, en fait, moi, j'attendais la série, je crois que j'en ai entendu parler la première fois, c'était genre en 2017, donc ça fait tellement longtemps que je l'attends.
Ouais, c'est fou.
J'avais vraiment une impatience de malade mentale, et en effet, bah pareil, j'adore Damien Chazelle. La La Land, c'est un film que je regarde dès que je me sens triste, dès que je me sens heureuse, enfin, c'est un film que je regarde tout le temps. J'adore Whiplash aussi. Du coup, j'avais vraiment trop hâte. Et après, comme tu dis, le synopsis était un peu obscur. Et en fait, je pense que j'aurais pas dû m'attendre à autant de, comme tu dis, de se faire happer et pas sortir. Parce qu'en fait, c'est même si Damien Chazelle est en haut de l'affiche, c'est pas du tout son idée. C'est même pas lui qui l'a écrit. Ça a été écrit par Jack Thorne. C'est à la base, c'est Glenn Ballard, du coup. Un producteur de musique qui est venu avec un album entier de 20 musiques et il allait voir Alan Poole, qui est le réalisateur des deux derniers épisodes. Et en fait, Alan Poole en a parlé à Damien Chazelle, qui le connaissait et qui savait son amour pour le jazz. Et du coup, le projet de Glenn Ballard, c'était de faire une série dans le Paris contemporain, dans un club de jazz. Et donc, voilà, c'est ce que c'est, en fait, mais... Même si Damien Chazelle a chapeauté un peu le truc et a réalisé deux épisodes, ça reste pas son idée et je pense que ça a été aussi un
et
peu...
Et pas trop sa patte.
Et pas trop sa patte, effectivement. Même si c'est lui qui a impulsé ce truc de filmer un peu à la manière documentaire, cinéma, vérité, nouvelle vague, caméra à l'épaule, là. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est la confrontation des vieilles techniques, tu vois, cette façon un peu ancienne de filmer qui était novatrice à l'époque de la Nouvelle Vague et qui l'est plus tant maintenant, mais de la confronter avec le monde moderne. Et je trouvais que c'était intéressant parce que moi, du coup, j'ai pas été déçue parce que, en fait, c'était tellement nouveau pour moi. C'était tellement une série que j'ai tellement pas l'habitude de voir. Que, en fait, je sais même pas si j'ai été déçue ou pas. Je crois que je m'attendais à rien d'autre que ça, en fait. Et j'ai été, en fait, un peu comme une partition de jazz, tu vois. Il y a des moments où j'étais dedans, des moments pas du tout. Et au fur et à mesure des épisodes, genre, j'étais rededans et en deux minutes, j'en sortais. Enfin, voilà. C'était un sacré ride. Et je pense que c'est pas une série qui est faite pour être bingée aussi. Je sais pas ce que t'en penses.
Complètement. Moi, d'ailleurs, je l'ai pas bingée. J'ai regardé à des moments différents. Ouais. J'ai regardé le premier épisode le samedi matin, j'ai regardé le second vers midi, un troisième le soir et un autre le dimanche. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout... Enfin, je trouve que la série est quand même assez indigeste, entre guillemets, surtout si on n'est pas de prime abord une grosse amatrice ou un gros amateur de jazz. La musique fait partie intégrante... Enfin, c'est un personnage à part entière de la série. Donc, je pense que si on n'accroche pas avec ce personnage-là immédiatement, c'est vrai que c'est pas un truc que t'as envie de manger. Parce qu'en plus, les épisodes sont longs, il faut le préciser.
Ouais.
Ils font plus d'une heure chacun, donc quand même te taper 8h30, 9h d'une série comme ça, où vraiment la musique tient une place si importante, et une musique à laquelle, si on n'est enfin, si on n'est pas habitué au, parce qu'attention, c'est pas un jazz ultra. Je trouve que dans La La Land, il y a quand même, par exemple, le ça alterne entre un jazz un peu, je sais pas, mainstream. Je trouve
que
les morceaux sont quand même ultra faits pour que tout le monde kiffe, quoi.
Ah,
avec des morceaux de jazz un petit peu plus pointus. Parfois, c'est du jazz expérimental, parfois, c'est du free jazz. Enfin, bon, on passe. En fait, si on n'a pas une oreille un petit peu aguerrie, un petit peu avertie à ces sonorités étonnantes, eh ben, je trouve qu'on peut très vite sortir de l'intrigue. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet, c'est pas mal de regarder un épisode par-ci, par-là, mais de pas tout ingérer d'un coup, parce que ça peut être un petit peu indigeste.
Ouais, c'est
mais
ça.
Je trouve, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que la série, en effet, elle est ultra déroutante. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir voulu faire une série avec des techniques proches de la nouvelle vague et même au-delà des techniques de captation de l'image. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'ultra lenteur du récit qui parfois s'entrecoupe par des moments ultra rapides. Il y a quand même une espèce de, il y a un tempo justement.
Ouais.
Qui est ultra ultra particulier.
Et il y a une nervosité
parfois,
dans la caméra qui, comme tu dis, en fait, c'est hyper contradictoire avec la lenteur de l'intrigue. On dirait que ça se passe sur. Enfin, en fait, je sais même pas quel est le temps de l'intrigue. Je dirais que ça se passe sur quelques semaines, mais parfois j'ai l'impression que c'est que sur quelques jours.
Ouais, complètement. Surtout les deux premiers épisodes, on ne comprend pas très bien la temporalité parce qu'elle rentre au lycée, puis finalement, bon, je sais pas, c'est un peu. Mais du coup, je trouve que c'est. En fait, ce qui est top dans cette série et ce qui peut plaire comme déplaire, c'est qu'on y est complètement perdu, quoi. On est perdu dans le temps, on est perdu dans cette musicalité à laquelle, si on est un spectateur lambda, on n'est pas habitué. On est perdu dans ces relations entre les personnages qu'on explique, mais qu'à moitié. Donc en fait, on est vraiment paumé de A à Z et ça peut être très désagréable, comme ça peut être vécu comme une expérience complètement novatrice et intéressante. Donc
mais
c'est
moi,
pour ça qu'en fait je. Ouais, pardon.
Non, mais moi j'ai vachement kiffé ce comme tu dis, ce sentiment d'être un peu perdu et pour le coup, moi qui n'écoute vraiment pas de jazz du tout, à part la BO de La La Land en boucle toute la vie. en fait, j'ai été vachement surprise de kiffer le jazz et j'ai trouvé que la série se voulait un peu pointue sur le jazz, mais quand même pas snob à 100%, puisque ça me laissait une brèche et ça me laissait un peu kiffer la musique, parce que je pense que c'est pas non plus du jazz ultra obscur comme on peut en avoir parfois, quoi.
Oui, je suis d'accord. Bah, notamment, t'as le thème qui revient régulièrement, qui est celui que compose Elliot dans le premier épisode et que va fredonner et chanter Maya à la fin du premier épisode, qui est magnifique.
Ouais.
Je trouve que toute la fin du premier épisode où elle chante, elle lui est au fond du bar avec sa fille, c'est un moment ultra intense. Et d'ailleurs, un moment qui fait penser à la fin de La La Land, je trouve.
Ouais.
Et je me demandais d'ailleurs si cet Elliot, et c'est ce que j'écris dans un article que tu mettras, j'imagine, dans les notes de ce podcast, je me demandais si, tu vois, ce personnage d'Elliot, c'était pas un peu le Sébastien de La La Land, mais version désabusée, c'est-à-dire le Sébastien qui aurait pas juste ouvert son club de jazz, c'est un Sébastien qui aurait vécu pendant des années, qui aurait expérimenté les déboires, enfin les problèmes financiers, des déboires amoureux, qui aurait été ravagé par la vie plus qu'il ne l'est dans La La Land parce qu'il est au début de sa carrière.
Mm-hmm.
Donc je me dis, est-ce que ce serait pas une version moins blanche et beaucoup plus désabusée de ce personnage qui crée dans La La Land et avec lequel il a rendu fou des tonnes de gens, quoi.
Et française
donc,
aussi, parce que Sébastien est finalement très américain, alors que Elliot, qui est joué par André Holland dans The Eddie, je trouve qu'il a une mentalité très française. Enfin, moi, je le trouve très français dans...
Ah bah, il est déprimant comme un français.
Mais écoute, je te propose qu'on passe tout de suite aux spoilers, enfin qu'on parle de la série plus en profondeur.
Yes.
Vous êtes prêts, les popcornos?
Avec plaisir. Pardon, j'avais pas mis assez d'enthousiasme.
Avec plaisir.
Oh, j'adore spoiler.
Eh bien, vous avez entendu l'alarme des spoilers. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous écoutez Sort le Popcorn, vous serez spoilé de fond en comble. Et du coup, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce que tu penses du traitement de la musique et du jazz dans la série?
En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le traitement de la musique, il est pas du tout celui auquel je m'attendais, parce qu'en fait, je pensais avoir droit à un traitement amoureux de la musique, ouais, comme dans La La Land. Mais en fait, bah, comme dans tous les domaines, les artistes ont leur déception. Et ce qui est intéressant dans The Eddie, c'est du coup que c'est le désamour qui s'est créé entre les musiciens et leurs instruments et leur art en général. C'est-à-dire que Elliot est un musicien désabusé qui finit par pas maîtriser, mais quand même être ultra désagréable avec les trois quarts des membres de son groupe. Et eux-mêmes, on les sent avoir un rapport quand même ultra ambivalent et compliqué à leur instrument. Maya, elle a pas toujours envie de venir chanter, et c'est normal parce qu'elle a une histoire compliquée avec Elliot. Elle a l'air souvent déprimée quand elle est derrière le micro. En même temps, Elliot lui gueule dessus. Et du coup, on retrouve quand même quelques-unes des obsessions de Damien Chazelle, et notamment, ce qu'il a décrit dans Whiplash, ouais, c'est-à-dire l'ultra rigueur, en fait, qu'implique la musique.
L'exigence, et en fait, le jazz, c'est quand même une musique de spleen et de, enfin.
Tout à fait, ouais.
Du coup, c'est une musique qui se nourrit aussi de tristesse.
Tout à fait, la tristesse, de désespoir, et je trouve que c'est ce qui est ultra bien retranscrit dans la série. Et en fait, je trouve que ce qui est ultra intéressant, c'est que la musique, elle est ici, c'est à la fois un élément passionnel et à la fois un fardeau. La musique est presque trop encombrante, presque trop lourde à porter, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui est, je trouve que c'est un des très bons côtés de la série. Ça tombe pas du tout dans la facilité de musiciens qui juste kiffent grave faire de la musique, comme dans Glee par exemple, tu vois. Tout le monde est trop content de chanter, de danser. Ici, les gens sont en dep parce qu'en fait, la musique, ça reste aussi un métier, ça reste aussi un truc pour lequel tu te lèves chaque matin, c'est ton putain de job, tu vois. Et comme dans tout job, t'as des éléments qui sont difficiles à porter, et d'autant plus que la musique a un domaine sensoriel et ultra relatif à l'émotion, donc
ouais,
c'est du coup, enfin, vraiment j'ai kiffé, mais ça m'a grave surprise parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'amoureux de la musique comme La La Land, tu vois.
Ouais, et puis aussi ce qui est surprenant, c'est que quand on avait eu l'information que ce serait une série musicale, on pensait que ce serait une série musicale dans le sens comédie musicale, et en fait Damien Chazelle avait bien précisé avant la sortie, non, c'est une série sur la musique, c'est pas une série musicale, donc en fait il n'y a pas de coupure musicale pour laisser voilà, comme une chanson, oh il fait beau aujourd'hui, allons à l'école, tu vois.
C'est chanté,
mais alors ça accompagne l'image, et en fait ça accompagne le quotidien, mais c'est jamais une coupure musicale. Et mais c'est vrai que, comme tu dis, la musique est un véritable personnage, mais parce que aussi c'est dans l'ADN propre de la série, puisque en fait à la base la série c'est une composition de Glenn Ballard. En fait, il est venu avec ses 20 chansons composées avant d'avoir écrit quoi que ce soit, et juste avec une idée en tête. Donc en fait toutes les intrigues ont été écrites autour de la musique, et c'est ça qui est assez fou, et je pense que c'est ça aussi qui fait l'exception de la série, quoi. Et ce que j'ai trouvé assez cool aussi, c'est ce que j'ai remarqué en premier, je me suis dit, mais la musique, elle est live là. En fait, ils l'ont pas fait en post-prod. Ils jouent en live, et ils ont refait les scènes 20-30 fois en jouant la musique en live. Et c'est ce que je trouve assez ouf, parce qu'il y a beaucoup de comédies musicales où tu fais du playback pendant la scène et ensuite tu vas enregistrer en studio. Là, tout est live, et donc en fait, ils expliquent dans une masterclass, je vous mettrai le lien également, que en fait le club de jazz The Eddie, c'est un studio, mais ça fonctionne aussi, c'est un studio de cinéma, mais ça fonctionne aussi comme un studio de musique. Donc en fait, ils pouvaient tout enregistrer de manière professionnelle en live. Et c'est ça qui donne une vie ultra particulière à la musique dans cette série.
Je voulais dire aussi je viens d'y penser, un truc qui m'a grave marqué, c'est que c'est au-delà de la musique, c'est le traitement du bruit. Par exemple, dans le deuxième épisode, qui est l'épisode centré sur Julie, ça fait un boucan, mais de tous les diables. C'est-à-dire que ça m'a vraiment presque sorti de la série. C'est-à-dire que tout fait du bruit du début à la fin. Elle commence l'épisode, Julie, en réveillant son père avec son instrument. Ça fait un boucan monstre dès la seconde 1 de l'épisode. Et après, ça ne s'arrête plus. Elle crie, il crie, les scooters, les dealers qui crient, ça tape dans la porte. Elle ouvre son sac, ça fait un boucan pas possible. Paris la nuit, relais scooters. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que du coup, c'est presque, on passe du jazz ultra agréable à écouter de la fin du deuxième, de la fin du premier épisode à ce bruit, un truc ultra désagréable en permanence. Et du coup, c'est là aussi, j'ai l'impression, pour nous sortir de notre zone de confort. Et j'ai trouvé que c'était, enfin, tu vois, c'est vraiment c'est l'opposition entre la magie de cette musique-là et le bruit de la ville. Et du coup, le côté ultra déprimant, oppressant de Paris, que Paris peut avoir parfois, je trouve que c'était vraiment bien vu et intéressant à amener, quoi.
Ouais, et du coup, comme tu dis, en fait, ça nous sort pas mal de notre zone de confort. Et je trouve que c'était ultra intéressant aussi le fait que ce soit Netflix qui soit producteur, enfin, qui soit, ce soit une création originale Netflix, qui fait en général des trucs assez lisses et assez, marketing, on va dire, marketé, en tout cas.
Tout à fait.
Et bah, là, c'est vrai que dans nous le sortir
des teen series, etc., et de la Casa des Papel, sortir The Eddy, c'est un pari, je trouve, à la fois risqué et à la fois, je vois que ça fonctionne parce que ce matin, The Eddy était dans le top 10 des séries Netflix. Mmh. Et je trouve que ça fait plaisir de voir que Netflix prend des risques et propose des choses un petit peu pointu, qui sortent de son catalogue habituel, quoi.
Ouais, et puis c'est dans la continuité de sa volonté de vouloir s'attirer les bonnes faveurs des cinéphiles en faisant des trucs un peu pointus comme ça, un peu... Enfin, et en
carrément.
Même temps, de les offrir à tout le monde, tu vois. Et comme ils ont sorti... Enfin, comme ils ont acquis... pas mal de films de Truffaut dernièrement et même de, mmh. de la Nouvelle Vague, enfin pas mal du catalogue de patrimoine de MK2 et je trouve ça ultra ultra cool et on pourrait le préciser aussi au niveau de la musique, on n'entend pas du tout que du jazz.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et,
oui, c'est vrai.
Et en fait, on entend plein de musique du monde et plein de... Enfin, il y a même de la variette, hein. Il y a du Mika, il y a du Angèle. Mais il y a aussi... en fait, tous les genres sont mélangés et je trouve que ça va bien avec la représentation du Paris multiculturel très texturé. Et loin des clichés qu'on n'a pas l'habitude de voir au ciné et à la télé, quoi, parce que c'est vrai que...
Et qui rappelle le métissage même du casting.
C'est ça, et qui brasse plein de cultures différentes. Et comme tu le disais dans ton article, ou je sais plus si on en parlait ensemble, que ça fait du jazz un véritable art de rue, en fait, qui se passe dans la rue, dans un Paris sale, dans un Paris... Enfin, voilà, c'est pas dans un club de jazz... à la Sébastienne justement, tu vois, Sébastienne
exactement.
Dans enfin c'est pas du tout le même genre de jazz, je trouve.
Et c'est en plus c'est vraiment en fait c'est ce que je dis dans mon article au début, c'est que en fait c'est presque un miroir, mais un miroir inversé de La Land, c'est-à-dire que La Land c'est du glamour, c'est du policé, c'est de la couleur et c'est un casting blanc. Et là, à l'inverse, on a le Paris 13 sous les graffitis, plein de dealers, de scooters, mais aussi d'une mixité sociale et ethnique ultra riche. Et où du coup, comme tu dis, en effet, il y a des musiques du monde. En plus, il y a des passages de beatbox et tout. Enfin, c'est vraiment ultra intéressant.
Ouais.
Et puis, un truc dont il faut qu'on parle aussi, c'est vraiment dans quelle série voit-on une diversité ethnique aussi importante que dans cette série. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à saluer. Ouais. Au même titre que c'est un des trucs qui m'a plu dans la série Hollywood, je trouve que pour le coup, c'était indispensable pour raconter cette histoire-là en particulier.
Et en plus, le fait qu'il y a une diversité ethnique, ça permet aussi d'avoir une diversité, une pluralité dans les langues et qui crée une musicalité aussi ultra particulière. Et moi, j'avais super peur en voyant le teaser, quand j'ai vu que les langues étaient mélangées, qui commençait la phrase en français, qui la terminait en anglais, qui la recommençait en polonais. J'étais là, oulalalala. Et en fait... ça crée quelque chose. Enfin, je trouve que c'est inouï en fait comme mélange et ces langues. Ça fait partie, je trouve, de la musique et de la musicalité que la série crée.
Complètement. Et c'est marrant parce que quand l'autre jour, donc quand j'ai écrit mon article, après, il y a eu plusieurs commentaires qui décriaient ce processus, justement, qui disaient, bah, en fait, ouais, c'est trop chiant, on est complètement perdu dans ce fourre-tout de langue. Alors qu'en effet, comme tu dis, ça donne une musicalité à la série qui est, qu'on voit rarement surtout dans des séries Netflix. C'est ultra intéressant et
je sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé que ça marchait. En fait, j'étais...
Oui, on n'est jamais perdu, hein.
Ouais, et puis, en fait, parfois, tu sais, genre, je regarde la série, et donc t'as pas des sous-titres tout le temps, parce que parfois c'est en français, et donc t'as pas de sous-titres. Parfois c'est en anglais, mais du coup je comprends, du coup je lis pas forcément les sous-titres. Et parfois ça passe en polonais, et tu sais, je me rends pas compte tout de suite que c'est du polonais. Et je fais, mais attends, là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais tu sais, tu rentres tellement dedans, que en fait, limite, le langage devient une musicalité plus qu'un signifiant. Et ça accompagne l'image et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'en plus, les acteurs font ça avec une aisance qui est assez déconcertante. Enfin, je sais pas.
Alors, oui et non, pour le coup, je suis pas ultra d'accord parce que je trouve que Elliot, justement, a des moments où il galère, mais c'est ce qui ajoute encore du charme.
Bah ouais, mais justement, parce que.
Et un côté cinéma-vérité à tout ça.
C'est ça, parce que pour moi, Elliot, justement, il parle bien français, mais. Il reste américain, tu vois, donc en fait, il capte pas tout. Enfin, moi, je me souviens de
ma... Il a un accent très prononcé.
Ouais, c'est ça. Je me souviens de ma choresse canadienne qui était venue passer 3 mois à la fin, 3 mois en France. À la fin, elle parlait très bien français. N'empêche qu'elle gardait un gros accent, que parfois, elle captait pas tout. Et je trouvais que c'était ultra réaliste. Et en fait, j'ai l'impression que même, tu vois, Sim, qui est un personnage qui parle pas bien anglais, va pas non plus faire semblant d'avoir un accent qu'il a pas. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez cool.
Non, je suis d'accord. En revanche, et moi, c'est un des points négatifs de la série, je trouve que ça engendre de fait une pauvreté dans les dialogues. Je trouve que ça aurait pu être un poil plus écrit et ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Je trouve que, à la fois, c'est le problème de la série, c'est que, voilà, les dialogues sont souvent assez creux et à la fois, c'est nécessaire de par le fait que tous les personnages ne parlent pas la même langue et peuvent pas se comprendre de manière totale et intégrale. Donc, c'est ce qui fait encore une fois, c'est là toute l'intelligence de la série, c'est que elle arrive à te faire d'un défaut une énorme qualité. Et du coup, j'arrive jamais vraiment à me sentir complètement déçue. À chaque fois que je me sens déçue, je me dis, bon, en réalité, je pense que je comprends l'intention derrière ce défaut. Donc, on pardonne à un défaut qui a une vraie intention derrière.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Damien Chazelle explique dans la masterclass, c'est que vraiment, là, ils ont tourné avec une équipe ultra légère, avec du matériel assez léger, et ils étaient en pleine expérimentation, en fait. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Et ça se voit dans la série. Tu vois qu'il y a des trucs, c'est ça aussi qui fait le côté très très rough, très très brouillon parfois. C'est ultra
brut.
Intéressant. Ouais, brut, voilà, c'était le mot que je cherchais.
Ouais, je suis d'accord. Et c'est cette dimension ultra brute qui fait que la série est pas forcément ultra facile d'accès.
Ouais. Et il y a des épisodes.
Ce qui est dommage, c'est qu'elle va peut-être pas rencontrer le public qu'elle mérite.
Ouais, c'est possible. Mais
tu vois, c'est fou, putain. Parce que je commence par te dire que je suis déçue par cette série. Et en fait, j'en dis que du bien. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé l'autre jour en écrivant mon article. Je titre pour « Est-ce que c'est si décevant que ça ?» Alors qu'au début, je finis par titrer « Est-ce que cette série est-elle si décevante ?» Alors qu'au début, c'était « Pourquoi cette série est décevante ?» Mais en fait, en écrivant, au début, j'ai toujours une sensation de « Ouais, quand même, j'attendais plus. » Et en fait, quand je vais en profondeur, quand j'en parle vraiment, je me rends compte que j'ai passé des moments... pas forcément agréable, mais en tout cas des moments déroutants et intéressants. Et je pense que le cinéma et les séries, c'est pas toujours fait pour nous plaire, c'est fait aussi pour nous déconcerter, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pas que du pur divertissement, en tout cas, Ziedi, c'est pas... comme tu disais, ça se binge pas, c'est pas toujours un plaisir de se dire... Enfin, moi, il y a des moments où j'étais là, bon, allez, il faut que je regarde Ziedi, parce que je sais qu'on tourne un épisode de Sort le Popcorn, tu vois. Mais j'avais pas une envie folle, et en fait, au fur et à mesure... Enfin, tu sais, tu t'accroches l'épisode, après tu décroches, mais je trouve aussi... Et là, on va parler du coup du format un petit peu, du format un épisode, un point de vue de personnage. J'ai trouvé les épisodes très inégaux.
Complètement.
Et c'est ça aussi qui te sort un peu du truc. Quand tu sors d'un épisode un peu qui était en deçà, tu fais ouf, bon, je m'y remets, et puis t'es resurpris, enfin t'es réembarqué, enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi.
Bah alors moi pour le coup je suis assez fan d'ordinaire du format un épisode focus sur un personnage. Je trouve que ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune dans la littérature normalement. Je trouve que ça se prête beaucoup moins à l'écran. Parce que je trouve que les images supportent beaucoup moins l'attente. Et que là, on est toujours dans l'attente de retrouver des personnages qu'on préfère, de retrouver un morceau d'intrigue qui finalement s'est dilué dans une intrigue plus grande. Parce qu'on en a pas parlé, mais enfin, la série est quand même un putain de thriller au final.
Mais oui, on dirait pas. On vient de parler de musique et tout, mais en fait, le fond, c'est un thriller. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, qui en fait était pas du tout nécessaire. Enfin, moi, je l'ai trouvé. En fait, ça m'a sorti complètement de tout le reste, parce que pour moi, c'était, pour le coup, irréaliste. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait à foutre là, tu vois, on s'en fout des mafieux. Enfin, s'il y avait tellement d'autres choses à explorer, en fait, je trouve que tout ce que ça fait, c'est que ça fait déborder le vase un peu, déjà plein de problèmes, et ça rajoute, enfin, je sais pas, ça me...
Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est vraiment le gros point noir. Et c'est ce qui fait que bah, j'ai pas été dedans dès le début, que j'ai manqué d'implication dans la série en tout cas. C'est que vraiment cette trame de fond, pour moi, elle était complètement superflue. Et je trouve que la musique était déjà, et la déprime des musiciens était un sujet suffisamment complexe à traiter.
Ouais.
Sans qu'on commence à ajouter du deuil, du machin, des courses. Enfin, j'ai trouvé ça de la paranoïa, de la poursuite. J'ai trouvé que c'était vraiment absolument superflu. Donc, c'est ultra dommage. Et tout ça pour en revenir à ce qu'on disait, le format. Oui, donc moi, d'ordinaire, c'est un format qui me plaît plutôt pas mal. Toutefois, j'ai trouvé qu'ici, du coup, ça mettait encore plus en relief l'inégalité totale. Des personnages, en fait, je trouve qu'il y a des personnages très forts,
ouais.
Et des personnages bien en deçà. Et pour le coup, j'aime beaucoup le personnage de sa fille,
Que
je trouve ultra intéressant, parce que très désagréable. J'arrive pas du tout à m'attacher à ce personnage,
ouais,
vraiment pas du tout. Je la trouve insupportable. Je trouve qu'on comprend qu'à moitié ses intentions de gamine rebelle.
Ouais.
Bien que, bon, voilà, on sait que son frère, tout ça, c'est quand même assez lourd à porter. Et puis, voilà, il y a leur famille empreinte de secrets. Il y a quand même une atmosphère ultra trouble et pesante qui pèse entre les personnages de cette famille. Mais elle est tellement exaspérante que je trouve que ça la rend ultra intéressant. Et du coup, son épisode où il y a énormément de bruit, d'agitation, etc., ça colle. C'est désagréable de bout en bout. Mais c'est ça qui rend le truc passionnant. Mais moi, par exemple, le personnage d'Amira, j'ai beaucoup de mal.
Alors que moi, j'ai beaucoup aimé justement l'épisode d'Amira. Parce que, en fait, je l'ai trouvé plein de longueur. Et j'ai trouvé que c'était ça le problème, c'était de la longueur. Mais en fait... c'est le premier épisode réalisé par Ouda Benyamina, donc c'est le troisième, si je me trompe pas.
Ouais.
Et donc Ouda Benyamina qui avait fait notamment Divine et qui avait gagné la caméra d'or à Cannes. Et moi j'avais adoré ce film.
Ouais, c'est hyper bien.
Et du coup, elle est vraiment dans comme pour Divine, dans la contemplation sociale. Et j'ai trouvé son observation du rite religieux ultra beau, ultra intéressant, tu vois. Mais par contre, beaucoup trop long. Du coup, ça en fait un épisode d'une heure qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Mais par contre, j'ai trouvé ça si beau. Enfin, j'étais super émue. Même dans la maison, tu vois, quand elle revient chez elle et que tous les musiciens sont là et qu'ils commencent à jouer, j'ai trouvé cette scène incroyable. Mais encore une fois, elle dure trop longtemps. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Ça s'étale trop. Tu sens, en fait, mais en même temps, je pardonne parce que tu sens l'engouement du réal qui peut pas couper, quoi. Il est là, non, il faut absolument que je filme tout et j'arriverai pas à couper parce que c'est trop bien et tout. Mais en tant que spectateur, enfin, c'est terrible, tu vois, ça gâche un peu le truc.
Ouais, c'est compliqué. Je suis assez d'accord. Donc du coup, moi, je suis pour ce format. Je trouve juste que du coup, ça ne fait que relever les personnages un peu plus faibles et sur lesquels on a moins envie de s'attarder. Et en plus, moi, le personnage que j'aurais vraiment aimé découvrir davantage, c'est Farid.
Ouais, carrément.
Et je trouve que, bah, du coup, dommage, quoi.
Ben ouais, en plus, c'était un Raïm. J'étais tellement pas prête à ce qu'il se fasse tuer au premier épisode. Ah, mais moi, je n'étais pas prête. C'était mon Ned Stark. Vraiment.
Oh, grâce, exactement ce que j'ai dit à mon pote avec qui j'ai regardé. Mais exactement. Exactement, surtout quand après on est surtout que 1, 2, 3, on était en train de recommencer Game of Thrones en parallèle. Et exactement. Ou alors, non, je ne vais pas spoiler ça. Donc, j'allais parler d'Hérédité, mais on, non.
D'accord. Non, ne spoile pas un autre film. Je sais qu'on est dans la partie spoiler, mais...
mais ouais, complètement. C'est tout à fait inattendu. Et en plus, Farid était un petit peu la caution bonne humeur de
ouais.
cette série.
De fou.
Et du coup, bah, c'est, enfin, le ton est donné dès le premier épisode. De bonne humeur, il n'y aura pas. Et démerdez-vous.
C'est le seul avec un t-shirt blanc, déjà. Genre, c'est le seul qui est un peu lumineux. Genre, tous les autres font la gueule. Mais ouais, ouais. Après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce format de point de vue, moi, tu sais, j'ai l'habitude, justement, que ce soit dans la littérature ou... même à l'écran, quand c'est du point de vue d'un personnage, tu sais, tout l'épisode est centré autour de ce personnage. Alors que là, pas du tout, j'ai trouvé que, en fait, la série s'enrichissait de chaque point de vue pour faire une sorte d'addition de tous les points de vue qui restent pris en compte dans la suite des épisodes. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ouais, ça fait une vraie toile.
Ça fait une vraie toile et en fait, ça termine par le dernier épisode. Le personnage, donc, c'est The Eddie. Ça veut dire que, comme tu disais, la musique est un personnage, mais aussi le bar est un personnage, puisque en fait, c'est celui qui rassemble tout le monde. C'est le point commun de tout le monde. Et en fait, c'est là que tu vois en fait le tableau terminé. C'est comme une, c'est comme un impressionniste.
Oh,
oh là là.
Mais alors, elle a envie de briller, quoi. Oh, dis donc. Non, mais je suis carrément d'accord. Donc, c'était pour le coup une vraie bonne idée, ce format.
Ouais.
Une vraie bonne idée. Et décidément, on finit par trouver que des points positifs.
Non, mais c'est fou. Et il y avait aussi... du
non,
coup,
mais quand même, moi, je vais te dire la vérité. Je me suis quand même fait chier une partie du temps.
Hein. Ouais.
Je veux quand même le dire parce que j'ai pas envie de faire semblant. Je me suis quand même fait chier. Hein. Voilà.
D'accord. Eh ben moi, je me suis moins... moi, je me suis moins fait chier qu'à Hollywood. Voilà, je le dis.
Mais je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre pourquoi. Hollywood, ça nous entretient dans du sucre, dans de la douceur, ce qui peut être très ennuyeux, finalement. Ça peut être très ennuyeux, la dimension naïve et cucu d'un produit entier. Et je peux comprendre qu'un côté brutal et déroutant soit plus addictif. Donc, je comprends tout à fait ton point de vue.
Merci.
Mais de rien, t'es rassurée maintenant que t'as ma vasilidation.
Heureusement que j'ai la vasilidation de Kalindi. Je le mettrai sur mon CV.
Of course.
Du coup, il y a une multiplicité des personnages parce qu'il y a 8 points de vue différents, mais il y a aussi la multiplicité de réalisateurs et réalisatrices puisqu'ils sont 4 à se partager 8 épisodes. Donc, il y a Damien Chazelle qui réalise les deux premiers. Et en fait, je trouve que en même temps, ils apportent leurs pattes et en même temps, ils ont une ligne directrice.
Ouais.
Directive.
Non, c'est bien tout à fait pour le coup parce que en effet, on sent le glissement de l'un à l'autre.
Ouais.
Mais l'ADN, en tout cas profond, de la série est respecté.
C'est ça.
Et donc il y a quand même une vraie cohérence sur l'ensemble des épisodes.
Mais en fait, c'est ça. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu comme une partition de musiciens différents qui jouaient la même partition, en fait. Mais chacun avec leur instrument et chacun avec leurs pattes et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que cette série était tellement méta.
Tu veux dire que cette série, ce serait un groupe de jazz et que chaque épisode, on serait un musicien avec un instrument et une partition particulière. Je vois ce que tu veux dire. En fait, cette série est un orchestre.
C'est ça. Non, mais je sais pas, je trouve l'initiative ultra jazz.
Sort, cette série est tellement méta. Quoi.
Non, mais je sais pas, je trouve.
Mister Robot.
Mais je sais pas, je trouvais que c'était une initiative très jazz en fait, justement, parce que.
Non, mais bien sûr, mais il faut. Enfin, c'était un peu
plein de relief.
Qu'il y ait une vraie mise en abîme de la musique dans la musique. C'était indispensable et je trouve que pour le coup, c'est bien réalisé. C'est pour ça que d'autant plus, la partie polar n'était absolument pas nécessaire, quoi.
Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair.
À moins qu'elle ait été justement qu'un prétexte à traiter le deuil, le rite religieux, etc. Et peut-être qu'on aurait pu écrire ça de manière différente sans partir dans la mafioserie à 2000%, quoi.
Ouais,
et en nous laissant
ça.
Goûter un peu plus longtemps à Tahar Rahim.
Ouais.
Merde.
Tahar, putain.
Ouais, c'était...
C'est
non, mais en tout cas, il faut quand même que je dise que du coup, ça, devant ta Raïm et ton t-shirt blanc, je me suis dit que je trouve qu'un homme n'a pas besoin de beaucoup pour être sublime, quoi. Un t-shirt blanc col rond et des manches courtes sur un bras musclé, voilà,
c'est ça.
Que demande le peuple.
Ah là là, ta Raïm.
Putain, je vais passer pour une vieille tante du...
Et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais de nos personnages préférés et pas préférés. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai beaucoup aimé les personnages du groupe qui sont d'ailleurs ultra talentueux et ils parlent.
Ouais, carrément.
Encore une fois, dans la masterclass, c'était tout. Ils parlaient de tout l'enjeu de caster des gens qui soient à la fois des musiciens excellents pour jouer les 20 chansons de Glenn Ballard. Et des acteurs qui pourraient tenir un épisode d'une heure à eux tout seuls, puisque c'est un épisode sur un personnage. Et je sais pas, j'ai trop aimé le groupe. J'ai beaucoup aimé Jude.
Ouais, je suis d'accord. L'épisode est très bien, l'épisode sur Jude.
Ouais, il est super tout... Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé trop touchant. Et même leur histoire d'amour, tu vois, avec... c'est la meuf, elle joue dans Divine, en plus, non ?
Tout à fait, ouais.
C'est Jessica Calvanda qui joue aussi dans Divine, qui joue l'amoureuse de Jude. Et ouais, je sais pas, j'ai trop aimé cet épisode ultra touchant de Jude qui passe pour un mec rigolo et tout auprès de la bande et en fait qui a une histoire super tragique. Enfin, je sais pas, voilà, c'est...
Non, c'est un épisode, je suis d'accord, c'est un épisode très délicat. Et moi, c'est un des personnages que j'aime le plus, en opposition à un des personnages que j'aime le moins, qui est Maya, que je trouve vraiment impiffrable de bout en bout.
Ah ouais,
ah non, je ne peux pas m'attacher à elle. Et ce, dès le début de la série, même dans son épisode dédié, vraiment, je peux pas. Maya, j'ai vraiment... J'ai du mal, ça s'explique pas parfois, mais voilà, on a une sensibilité différente pour certains personnages et j'ai eu plus d'empathie, de compréhension du personnage de Julie, même si elle est un peu insup à certains moments.
Mais qu'est-ce qu'elle le fait bien ? Qu'est-ce qu'elle fait bien, l'ado ? C'est un délire. J'ai été impressionnée.
Elle est très bonne actrice, Amanda Stenberg, on l'adore.
Ah ouais, mais en plus, elle chante très très bien, faut le dire.
Tout à fait. Mais je savais pas, hein, moi.
Mais oui, et en fait, c'est
après, en allant chercher, que j'ai vu qu'elle était musicienne et chanteuse aussi et tout. Et moi, je savais pas du tout.
Ouais, ouais.
Et j'étais ultra impressionnée.
Ouais. Et ouais, je trouve qu'elle a même une grande musicalité dans ses mouvements et tout. Enfin, je sais pas, je trouve son personnage...
Gracieux.
Ouais, gracieux, même si j'ai envie de l'encastrer H24, parce que vraiment, c'est vraiment une ado. Mais en même temps, je la comprends, parce que c'est vraiment une ado et je vois comment elle se sent, tu vois, parce que j'imagine que je me suis déjà sentie comme ça aussi, même si je faisais pas la même chose, mais ouais, je sais pas, elle m'a trop agacée pour le coup, elle, son histoire en plus avec Sim, je la trouvais pas forcément nécessaire, même si elle est mignonne, tu vois, enfin, et en même temps, je la trouve pas mignonne, enfin, je sais pas, je trouve qu'ils vont pas ensemble, voilà, je l'ai dit.
Ça, c'est dit, ok.
Non mais ouais, je sais pas, ouais.
Moi je trouvais ça à la fois mimes, à la fois j'ai pas vraiment d'avis sur leur relation parce que même leur la manière dont elle le séduit entre guillemets dans le club.
Ouais.
J'étais là, qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer ? J'ai pas très bien compris le propos sur la sexualité de ce personnage.
Mais je crois que c'est ça le truc de la série, c'est qu'il y a pas vraiment de propos.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ça part sur plein de pistes sans les exploiter. J'étais là, bon, d'accord, ok. Là,
ouais, parce qu'en fait, ils veulent filmer la vie, je pense, plutôt que de dire des choses. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que j'avoue, je vais pousser un petit coup de gueule. Ouais, mais je vais pousser un petit coup de gueule parce que, en fait, j'en ai marre des séries à thème, tu sais. Des séries où on dit, alors là, ça va être une série sur les violences sexuelles. Là, ça va être une série sur. Enfin, tu sais. Où il y a des propos, où tout a un sous-sens et tout. Alors que là, parfois, c'est juste la vie, tu vois. Enfin, c'est juste filmer des gens qui évoluent. On n'explique pas forcément leur action. C'est un peu... voilà, c'est la life, quoi. Je sais pas.
Tranche de vie.
Go with the flow.
Non, mais je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on a perdu dans l'urgence de consommer des contenus. Je trouve qu'on a besoin... Enfin, en fait, on fonctionne comme ça aussi avec la VOD. On a besoin... Par exemple, pour se diriger, enfin pour choisir un film le soir, de se dire bah tiens, j'ai plutôt envie d'une comédie romantique sur tel truc ou tel machin. On a tellement l'habitude de sectoriser et de compartimenter l'art dans l'art, quoi, que en effet, on oublie que filmer l'existence, ça peut déjà être un propos en soi.
Ouais, c'est ça.
Sauf que je trouve que dans l'existence, parfois, on a des discussions. Et parce que je trouve que c'est un, un cliché du cinéma d'auteur, c'est de croire que voilà, les, quand on filme la vie, il suffit de filmer des gens faire des machins et rester mystérieux, alors qu'en réalité, les gens dans la vraie vie se parlent quand ils ont des problèmes, ils disent en fait ça ne va pas, je suis vénère, voilà pourquoi. Et en fait, il y a des confrontations, il y a des, et c'est ce dont la série manque, et c'est pour ça que je parlais de pauvreté des dialogues. Par exemple, le comportement sexuel de Julie, on comprend pas vraiment, on sait qu'il s'est passé un truc avec son beau-père, mais en fait, à aucun moment elle en parle, et je trouve que du coup, ça fait perdre en substance à son personnage, ce qui est ultra dommage, puisqu'on commence à aborder des choses, autant aller un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, je trouve que c'était un lieu commun dans lequel il n'était pas nécessaire de tomber pour justement retranscrire des morceaux de la vie, quoi.
Je comprends. Je valide aussi ton point de vue. Voilà.
Oh bah merci pour cette validation.
Et du coup, final question, à qui tu recommanderais The Eddie?
C'est une très bonne question parce que justement hier, j'étais avec des amis pour un apéro post-confinement et je me suis retrouvée à pas leur conseiller The Eddie parce que je savais très bien que je ne m'adressais pas à la cible qui convenait parfaitement. Je pense qu'ils se seraient profondément fait chier tous les deux et sans vouloir à aucun moment nier leur capacité à aimer des produits un peu lents. Mais je pense qu'ils se seraient emmerdés devant The Eddie. Je pense que je conseillerais The Eddie à tout le monde, ne serait-ce que pour les encourager à sortir de leur zone de confort et pour les pousser tous à se secouer un peu le fion, parce qu'en fait je me dis que de conseiller The Eddie à des amateurs de jazz ou à des amateurs de la nouvelle vague par exemple, ce serait prêcher pour leur paroisse, et c'est dommage justement. The Eddie, c'est un bel enseignement sur ce qu'on peut faire de la lenteur, comment on peut transcender l'ennui, et je pense que ça c'est un enseignement auquel devrait être confronté un maximum de personnes. Donc la réalité c'est que je conseillerais The Eddie à tout le monde.
Voilà,
c'est pas
tu
du
vois
ce que je voulais dire, mais...
c'est exactement ce qui se passe avec The Eddie, c'est que tu commences par dire quelque chose, je veux pas le conseiller à n'importe qui, par contre je le conseille à tout le monde. Cette série est-elle décevante? Non, pas du tout.
T'en penses quoi, toi?
Ouais, bah écoute, en fait, je pense que la recommander sans contexte, c'est un peu difficile de jeter les gens comme ça. Enfin, tu vois, moi, par exemple, mes parents sont souvent avides de mes conseils en cinéma et en série. Du coup, je leur conseille quelques trucs. Et je me dis, là, si je leur envoie juste un message en disant « The Eddie » de Damien Chazelle, tu vois, et ben, ils vont pas comprendre pourquoi je leur ai conseillé. Donc, en fait, je la recommanderais... aux gens à qui je peux expliquer pourquoi je leur recommande.
Très bien.
Voilà. Donc, aux gens qui écoutent Sœur le Popcorn, finalement.
Ah, bah, c'est tout à fait.
Oh là 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 là.
Mais franchement, c'est un métier.
Cet épisode est terminé. Oh là 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 là, comment je l'ai fait d'une main de maître. Ouais, already. Bah, ça fait déjà presque une heure qu'on en parle, Kalindi. Tu te rends compte?
Ah, bah. Il y avait des choses à dire.
Mais il y a plein de choses à dire et ça fait plaisir d'avoir des conversations et pas forcément tout le temps enregistrer des petites notes vocales chacun chez soi, même si c'est sympa aussi de faire des mini recos.
C'est sympa, mais bon, moi personnellement, ma voix, je n'en peux plus. Hein.
Comme je te comprends, je l'écoute toute la journée. Enfin, la mienne, hein, pas la tienne.
Pas blâmé, tu sais, je sais que ma voix est difficile à supporter pour beaucoup de personnes.
Non, je la trouve mélodieuse, Kalindi.
Oh, quelle lèche-cul.
Bon, et eh bien, cher Popcornos, merci d'avoir écouté Sors le Popcorn jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous mettre des petits commentaires et nous dire si cet épisode ou The Eddie vous a plu dans nos DM Instagram, par exemple. Voilà,
à
très vite.
Merci beaucoup, Alix, de m'avoir invité. C'était un chouette moment.
Ouais, bah moi aussi, ça m'a fait très très plaisir, Kalindi. À la prochaine.
À la prochaine, Alix.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.